vibrer au rythme de la matinale. La matinale
la plus déjantée
de la bande FM. La bande FM.
Quel coquin.
Fais le plein d'énergie dans
l'aventiseur
avec John et toute son équipe.
Si on volume 3.
On est toujours en direct, les amis, sur volume 3. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur 87.9 FM et également sur www.volume3media.com. Docteur Mastamba est encore avec nous ce matin. On lui dit bonjour. Docteur, bonjour. Docteur, est-ce qu'on peut vous avoir quelques minutes, docteur Mastamba? On chante pas. Oui, normalement, c'est ce que je dis. Oui, enfin, normalement, vu que. Oui, mais vu que le vol a été retardé, est-ce qu'on peut vous avoir quelques minutes? Est-ce qu'on peut vous avoir quelques minutes? Oui, non, bien sûr. Il y a pas de chanson. Il y a pas de musique. C'est quelques minutes. Hein. On vous prend juste quelques minutes. Cinq minutes. Oui, cinq minutes. Oui.
Donc 4 minutes 30 secondes, on y va.
Bonjour docteur Mastamba.
Bonjour.
L'expérience Sinac, alors normalement on ne devait pas vous avoir ce matin, mais...
Non, normalement là je suis dans l'avion.
Dans l'avion.
Depuis 9h,
oui.
L'avion vole vers Yaoundé.
Oui.
Abidjan, bon, on considère qu'on enregistre l'avion. On est dans le cockpit.
Ouais. Est-ce que tu peux appeler les passagers s'il te plaît? Tu peux appeler les passagers?
C'est toi qui appelle les passagers.
Appelle les passagers s'il te plaît, parce qu'on est le cockpit, hein, s'il te plaît.
Mais comment j'ai fait les passagers?
Mais comme une agence.
Mais vous êtes la chef de cabine.
Ok. Mm-hmm. Les passagers du jour sont priés de rejoindre.
Change de métier, va dans l'aviation.
Alors là, on est dans le match s'est terminé hier pour vous. Là, on est dans les minutes de prolongation. Le bilan que vous faites de cette édition du SINAC 4, c'est lequel, docteur?
Mais une grande évolution par rapport au SINAC 3. Mm-hmm. Une grande évolution dans le choix du lieu d'ailleurs.
Ouais.
Je pense qu'on a un lieu qui a une mémoire, un lieu qui raconte une histoire. Mm-hmm. Parce qu'en venant ici, à la maison du parti, on n'est pas dans un lieu neutre. Mm-hmm. Et les grands événements du monde s'installent dans des lieux qui ont un storytelling.
Ouais.
Et c'est ce qui apporte un cachet particulier. Quand je rentre dans cette salle, je rentre dans des souvenirs. Quand mm-hmm. j'arrive dans cet espace, j'arrive dans un lieu où des débats ont eu lieu, ouais. Où des confrontations ont eu lieu. Mmh. Et c'est cette symbolique-là qui me touche particulièrement, que nous puissions de manière éphémère installer cette structure-là et qu'au niveau aussi de l'organisation globale,
ouais.
Le SINAC cette année est tenu compte des observations des participants.
Ouais.
Qu'il y ait une meilleure circulation dans l'espace des centres,
ouais.
Qu'il y ait un allègement aussi du nombre de personnes dans les panels,
mmh.
Et plus qu'il y ait une plus grande profondeur dans les débats sur les métiers liés à la fabrication du contenu. L'année dernière, on était sur les contenus.
Mm.
Cette année, on a Sydney qui est venu après 48 heures New Zealand, mais qui permet d'avoir un modèle en face. Donc, je pense que SINAC 4, c'est comme je dis, la quatrième année, c'est on pose un équilibre.
Mm.
Là, on est sur une rampe de lancement qui permettra, avec le chiffre 5, certainement d'aller vers les 5 continents. Là, on a touché 4 continents.
Votre discours est marquant puisque vous revenez à chaque fois sur l'importance d'avoir nos propres histoires. D'ailleurs, je ne connais que très peu de narrateurs aussi talentueux que vous. Vous savez raconter même des histoires qu'on a vécues comme si c'était les vôtres. Vous savez vous les approprier. Sydney, d'ailleurs, aussi revenu sur ce problème. Là, il faut qu'on puisse raconter nos histoires et c'est bien parce que ce salon aussi nous permet de le faire, mais la vraie question que les gens m'ont posée quand j'ai répété ça un peu comme une évangile hier, c'est est-ce qu'on a tant d'histoires à raconter en réalité?
On n'a aucune histoire à raconter, mais qui a déjà filmé l'arrivée des premières populations à Douala et le réveil des poissons? Vous voyez les images,
ouais.
Quel est le cinéaste camerounais qui a fait un film sur ça? Et qui a fait un film sur l'origine du mot Douala. Vous pensez que cette histoire ne mérite pas d'être racontée? Qu'elle n'est pas belle? Moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça fait 22 ans que je viens ici, ou 24 ans. Je viens ici depuis 2002.
Ouais.
On était là à créer le festival, le FESMOC, le Festival des Arts et du Conte, avec Léo Longmont, en 2000. On quittait Douala, on allait à Pouma, on passait des journées à Pouma, on allait dans le marché agricole et on comptait dans le marché agricole. On continuait plus tard, on allait à Sa, on allait à Kribi et ce pays n'a que des histoires à raconter. Qui a raconté les fortes têtes Béti qui n'ont jamais été colonisées? Jamais, jusqu'à la décolonisation. On ne va pas raconter le premier Béti qui a dit non? On ne va pas raconter le premier Bassa qui a dit non? On ne va pas raconter la naissance des écoles. On ne va pas raconter les grandes ruptures. La première fois que les femmes ont voté dans ce pays-là, ça ne mérite pas d'être raconté.
Exactement. Ça, on parle beaucoup de Rosa Parks ailleurs, mais il y a aussi des histoires à raconter chez nous en Afrique, au Cameroun. Mais qu'est-ce qui est, de votre point de vue de scientifique et de quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Afrique, qu'est-ce qui explique que parfois on ait peur, ou honte de nos propres histoires?
Mais on a des mémoires d'emprunt. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Être libre, ce n'est pas juste voter, aller travailler. Être libre, c'est réfléchir et voir le monde par ses propres yeux. Nous avons des yeux d'emprunt. Nous avons des langues d'emprunt. C'est notre richesse. Notre richesse, c'est que nous avons rencontré le monde. Nous avons pris du monde. Mais nous avons tellement pris du monde que nous avons enfui. C'est comme quand vous achetez une première chemise, que vous mettez au fond de votre valise, et ensuite on vous offre plusieurs autres chemises. Vous êtes tellement en affection avec les chemises qu'on vous a offertes que vous avez oublié la première que vous avez achetée après une journée au chantier. Aujourd'hui, c'est sur ces fondamentaux-là qu'il faut aller. Est-ce que nous allons nous replier sur nous-mêmes? Non, nous n'avons pas besoin. Mais nous devons être conscients que notre grande responsabilité dans 50 ans, c'est que les jeunes nous pointent et nous disent, nous ne savons rien de nous-mêmes. Est-ce que nous allons assumer cette responsabilité? Non, je pense que c'est une responsabilité que moi, je ne suis pas prêt à assumer. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de laisser des buildings, laisser de grandes maisons, laisser des voitures. Mon grand-père, celui qui était un des plus grands, d'après ce que l'IFAN a dit, c'est l'Institut de Charente Diop, d'après ce qu'ils ont dit, c'est le plus grand historiographe de l'Afrique de l'Ouest sur l'histoire du Djolof. Moi, j'ai découvert ça en première année à la fac. Je parle du père de ma mère.
Oh là là.
C'est en première année que j'arrive à l'université. Le professeur qui me paraissait le dieu du savoir sur l'oralité et la littérature finit son cours, professeur Bassiouri Sambadien, paix à son âme, et nous donne un exercice. Et dans l'exercice, il dit, pour comprendre la suite de cette histoire, contactez la famille de Leïti Gissé. Je suis dans l'amphi 1 de l'université Charente Diop. Je suis le descendant direct de Leïti Gissé. J'ai mon bac, je suis en première année. J'apprends pour la première fois que les chercheurs qui sont mes références ont pour référence ma mère.
Wow.
Donc je retourne à la maison et qui est-ce que je vois? C'est la petite sœur de ma grand-mère qui est encore vivante, paix à son âme. Et je vais passer un week-end avec elle et elle me raconte les informations dont j'avais besoin. Elle que je méprisais parce qu'elle ne parlait pas français, parce que tout son savoir était en langue africaine, que je considérais comme ne sachant rien. J'ai passé un week-end avec elle. Et tenez-vous bien, je vais faire une ellipse et aller à la fin. À la fin de l'année, je tombe à l'oral, en première année, sur un sujet qui me demande le mythe de fondation de l'histoire du Sénégal. Le premier empire, l'empire du Djolof. Et je commence à déballer ce que ma grand-mère, Aoudjoum, m'avait dit. Et le professeur m'arrête, il me dit, mais d'où est-ce que ça vient, ces informations que nous cherchons depuis tant d'années? Je dis, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Il me dit, c'est pas vrai, tu es qui? Je dis, Massambagé, je suis le petit-fils de Leïti Gissé. Il me dit, c'est pas vrai, Leïti Gissé n'a pas de descendants. On cherche à ses contacts, on n'en a pas. Il a exigé, le professeur Barcelien, que je sorte ma carte d'identité à l'oral. Je suis au département de philosophie. Je sors ma carte d'identité, il regarde, il voit effectivement fils de Ngagne, c'est le nom de mon père, et de Lorou Gissé. À la fin, il me raccompagne. C'était le professeur le plus sévère. Nous n'osions pas le saluer. Il me raccompagne dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Il y a un long couloir à l'université Charente Diop. Ceux qui ont fait Dakar savent ce couloir-là, qui va vers Sesti. Le couloir de la mort. Il me raccompagne et il me tient par la main. Et il me dit de grâce, c'est ça ton destin. Vous avez l'obligation de continuer à faire vos recherches dans ce domaine-là. Après, ça me pousse, moi, à faire une maîtrise en littérature comparée, mais en sachant que mon choix, c'était aussi de valoriser l'oralité. Mais pour qu'on ne pense pas que je fais de la facilité, je fais une maîtrise en littérature comparée et je travaille sur la comparaison, la présence du sang dans la Genèse et dans le Coran. Je finis ce travail-là, je fais un autre travail sur la présence de l'oralité dans les romans africains.
Africains
et dans les romans aussi du Maghreb. Africains du Maghreb et de l'Afrique, de la partie subsaharienne. Pour le dire, je sais faire ce que vous faites. analyser des romans comme l'Europe nous a enseigné. Et je fais un diplôme d'études approfondies sur l'organisation sociale dans les romans, en travaillant sur comment, au XIIIe siècle, l'Afrique déjà avait ce qu'on appelle les classes et les catégories sociales.
Déjà.
C'est après maintenant que je leur ai montré que j'étais capable de faire comme eux, avoir un doctorat et des recherches sur les romans, que j'abandonne tout et je fais 20 ans de parcours. Je parcours le continent, je vais rencontrer les conteurs, je vais partout. Et pour terminer, je viens ici au Cameroun. Je descends à Yaoundé, je fais ce parcours-là, je vais chez le professeur Abega. Je vais dans sa bibliothèque privée. Parce qu'il y avait là-bas les livres que je cherchais partout et que je ne pouvais pas trouver.
Retrouver.
Et je fais un séjour de 10 jours. Et je retourne à Dakar pour soutenir ma thèse sur l'évolution du conte. Du conte moderne au conte traditionnel, étude des variations et permanence stylistique et thématique. C'est ça mon rapport. J'ai découvert que les gens que j'ignorais, que je snobais parce que j'avais le bac, parce que j'avais la maîtrise, étaient porteurs de savoir. La seule différence, ils ne parlaient pas français. J'ai compris que le savoir ne dépendait pas de la langue, mais des compétences et de ce que nous avions. C'est ça qui m'a décomplexé.
Ouais. Et justement, l'histoire retiendra que cette année, vous êtes venu contribuer à la création de l'audiovisuel africain que le monde regardera avec nos langues, nos histoires. Et c'est ce qui est fascinant. On peut vous écouter des heures et des heures. Parce qu'on se rend bien compte qu'on a un narratif, on a des choses à raconter et qu'on devrait les montrer au monde. Personne ne viendra le faire à notre place. On devrait les montrer au monde, ces histoires-là, et franchement, c'est...
Mais je vais te faire rire. Tu sais, quand j'ai commencé l'émission Contes et légendes à la télé, à la radio, je commençais déjà à la télé. Moi, j'ai commencé en 96-97 par la télé, et en direct, et Contes en direct, j'avais jamais fait de la télé. On me prend, on me chope, on me pose devant les caméras, vas-y, samedi matin, et tous les samedis matins. Tous les samedis matins. Jusqu'au jour où on m'appelle, on me dit... on veut faire une émission de conte en français. À la radio, j'en avais jamais fait. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je me pose. On me dit de faire une émission de conte en français. J'ai dit, mais je compte pour qui? La cible. Moi, je suis d'un village. Il y a mes grands-pères, il y a mes oncles qui sont là-bas, qui ne sont pas formés en français. Est-ce que je vais faire une émission, retourner dans mon village, retourner parmi les siens, sans qu'ils sachent ce que je fais? Donc, je rentre en studio et je suis d'une indiscipline radiophonique extraordinaire. C'est-à-dire, je ne fais rien de ce qu'on me demande. Ça vous arrive. On sait de quoi on parle.
Exactement.
Je sais. Donc, je ne fais rien de ce qu'on me demande.
Ouais.
Je prends quelqu'un, je dis, je fais le conte en français et toi, tu fais les voix en wolof. Tout ce que je dis en français, tu le dis en wolof. Donc, on fait une émission bilingue. Je dépose à la direction. Ils me disent, on diffuse. On diffuse. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est exactement ce qu'il faut.
Ouais.
Parce que l'animateur de radio, il crée les images, il crée les sons, il crée les volumes, il crée les émotions, il crée tout. On a cette liberté qu'à la télé, l'autre n'a pas.
Voilà.
Parce que ce n'est pas lui qui choisit les valeurs de plan.
Exactement.
Là, je choisis les émotions, je choisis les modulations. Quand je veux faire sortir une fricative, je sais que j'ai le choix entre un S, un F, etc. Je veux une sifflante, je la sors. Je veux une suintante, je la sors. Je veux une sourde, je la sors. Je veux une sonore, je la sors. Si je sais la consonne que je veux sortir quand je veux, et personne ne peut arrêter. C'est déjà dans le micro et c'est déjà dans l'oreille de l'auditeur. Donc, ça fait 26 ans que je fais cette émission seule. Contes et légendes. Et au début, les journalistes venaient épier, ils rentraient sous le studio pour regarder si j'avais des textes cachés. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un puisse passer, switcher du français au wolof, parce que je faisais du 10-10. 10 secondes en français, 10 secondes en wolof, mais je ne traduisais pas le conte français en wolof, ni le conte français en wolof. Je supervisais la même histoire dans les deux langues, parce que les images ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on dit en français... Jacques a épousé Odile. En Wolof, quand tu le dis, l'image te dit Jacques a lié Odile à une famille. Donc, je ne peux pas traduire. Il y a des choses que je ne peux pas traduire. Donc, les journalistes venaient, ils regardaient, ils ne voyaient pas de papier parce que j'avais décidé de former mon esprit à la capacité de concentration. Je dis, si j'ai une feuille, je vais lire. Et si je lis, celui qui m'écoute de l'autre côté saura que je lis. Je suis formateur en radio. Je suis formateur en radio. Depuis des années, je parcours le monde à former des animateurs, à mettre en place des émissions. Je sais former. Je sais qu'on écrit pour la radio. Mais Mon but n'est pas ça. Et j'ai envie, en revenant l'année prochaine, d'avoir dans votre radio, de voir un jeune capable de se poser ici tous les mercredis, tous les samedis,
oui,
et de dire ses comptes. Vous savez pourquoi? Et je termine par ça. Aujourd'hui, je reviens de la Guyane. J'arrive en Guyane, personne ne me connaît. Je rentre dans un magasin chinois, je cherche des produits, j'achète, je me retourne, je vois un jeune noir, mais en Guyane, voir un noir, c'est normal. Je me retourne et je dis, le prix c'est combien? Le jeune qui vendait a failli laisser tomber ce qu'il avait. Et il tremblait. J'avance, je dis, il y a quoi? Il vient vers moi comme s'il m'agressait. Je recule et il me dit, contes et légendes, contes et légendes, contes. C'est le titre de mon émission. C'est un jeune Sénégalais qui depuis 6 ans vit en Guyane. Et qui, quand il était petit, écoutait cette émission avec son papa. Je vous rassure, on m'avait dit que ça n'intéressait personne. On m'avait dit que les jeunes n'en voulaient pas. On m'avait dit que personne n'en voulait. Parce que c'est vieux. Ce qui est vieux, c'est ce qu'on fait de manière vieille. La radio peut rendre tout moderne.
Tout,
et
absolument.
Si l'année prochaine, je viens au CINAC et qu'il n'y a pas une émission de compte, je ne répondrai pas à votre interview.
D'accord.
Et le premier qui le fait, le premier qui va se spécialiser dans
les comptes,
peut-être que plus tard, il peut être conseiller technique. J'ai été conseiller technique à la présidence du Sénégal pendant 10 ans. Et c'est après mon recrutement que la présidence a su que j'avais un doctorat. Donc, qui est-ce qu'on a recruté? C'est le compteur. C'était pas le professeur ou le chercheur. Et ça, j'ai du fierté de le dire. C'est la radio qui m'a amené à la présidence. Ce ne sont pas mes diplômes.
Merci beaucoup, docteur Massamba.
Je peux partir, ma chérie.
Merci, franchement. On fait des bisous à ma grande sœur chérie Anne qui nous a fait cette petite fleur ce matin. Merci beaucoup, docteur Massamba.
Et arrêtez de chanter.
Tout à l'heure, on chante encore.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.